cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour en robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien pendant de corail, ton cueil en rêvant. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je regarde au cœur. Une plaie ouverte et dame fortune à mes dents offertes ne pourra jamais.
Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec son générique Les éléphants de Berrurier Noir. Aujourd'hui, on va poursuivre la lecture du livre de Martin Winkler, Les brutes en blanc, en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Oui.
Et à propos du groupe Libertaire d'Ivry, oui, on a une annonce à faire. Alors, l'annonce c'est que à la librairie Publico, dimanche 18 janvier à 16h, il y aura la projection de discussion sur le thème, à l'invitation du groupe Libertaire d'Ivry, sur le thème « La féminité ». Entre parenthèses, selon les anarchistes.
L'accueil est à partir de 15h, je précise. De toute façon, la librairie est ouverte, je crois, le dimanche. Il faut vérifier, mais à partir de 13h, je crois.
Alors, il y aura donc la projection du court-métrage réalisé par des élèves de 5e dans le cadre de leur atelier cinéma durant l'année scolaire 2016-2017, et qui durera 30 minutes, et qui sera suivi d'un débat ou d'une discussion. Pour les anarchistes, qu'ils se définissent avant tout comme individualistes ou comme communistes libertaires, les libertés individuelles sont aussi essentielles que la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Il faut espérer qu'une révolution libertaire se traduirait forcément par la recherche d'autonomie, de critique de toute forme de contraintes sociales. Parmi ces contraintes sociales, on peut sans attendre une révolution essayer de s'affranchir au maximum des préjugés concernant la féminité. Bien sûr, les hommes aussi sont censés obéir à des diktats imposés depuis l'enfance. Pour autant, les contraintes et préjugés concernant les hommes et les femmes ont-ils les mêmes conséquences ? Les rayons jouets, filles ou garçons sont significatifs, même si cette division des rôles existait déjà bien avant que les enfants reçoivent des jouets à Noël. En général, les hommes sont encouragés à développer leur autonomie, leur intelligence, leur esprit d'aventure. Pour les femmes, sauf exception, les seuls objectifs seraient d'abord la séduction, puis le foyer et les enfants. Une femme n'existe que si elle est bonne, bonne tout court, bonne cuisinière, bonne ménagère et bonne mère. La mode récente de l'épilation est significative. Ce ne sont pas seulement les poils, ce sont les femmes qui doivent être sous contrôle. Pour des femmes anarchistes, pas question pour autant de chercher à devenir politicienne, flic, militaire, chef en tout genre, ni à faire partie d'une élite sociale et culturelle. La féminité, ce documentaire constitué d'interviews de personnes de tous âges, réalisé par des élèves de 5e, est quand même loin des préjugés de Soral, Zemmour, Brigitte Bardot ou Proudhon. Ah, tu mets Proudhon dans la même catégorie.
Ah, tu sais pas le genre de truc que disait Proudhon ?
Ah oui, sur les femmes. Oui,
sur les femmes.
Oui, oui. Mais non, justement.
Je t'invite à aller faire une recherche.
Voilà. Mais justement, parce qu'il n'est pas aussi caricatural, il constitue une bonne base de discussion sur ce qui reste encore à faire pour se défaire des idées reçues. Voilà, donc c'est à Publico le dimanche 18 janvier, dimanche prochain, à 16h, enfin accueil à 15h, 145 rue Amelot, dans le 11e.
Voilà, métro. Oberkampf, République, Fille du Calvaire. Voilà.
Et maintenant, je vais te rejoindre sur le studio pour parler de ce livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc.
Tu vas peut-être le présenter à nouveau. On en est au chapitre combien, là ? T'as pas compté, enfin.
Alors, on a dépassé un peu la moitié du livre, c'est-à-dire qu'on est au chapitre 8. Bon, ce qui ne signifie pas grand-chose.
On précise une fois de plus, puisque chaque fois on l'a précisé, mais c'est toujours vrai. Tu ne l'as pas lu non plus, toi, le chapitre que tu vas lire ?
Non, j'en ai parcouru le début pour m'entraîner à la diction. Mais
ah, tout. D'accord. Ok, parce que moi, pas du tout. Ça okay. va être la surprise.
Oui.
Est-ce que tu peux représenter une fois de plus, parce que pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, donc précédemment, dans l'entonnoir, Martin Winkler
a exercé la médecine général en France de 1983 à 2008 en zone rurale et à l'hôpital. Il est l'auteur de La maladie de Le cœur des femmes et En souvenir d'André. Il vit désormais au Canada où il participe à la formation de futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa.
Le livre, il date de quelle année ?
Et donc oui, ça c'est peut-être même qu'il fait plus ça.
Oui, voilà, c'est très possible.
C'est 2016. Donc,
d'accord. Là, oui, oh, bah,
disons,
c'est pas, quoi, environ, oui.
Alors, la dernière fois, on avait abordé la question du cancer, la cancérologie. Mm-hmm. Et on poursuit encore donc, dans ce domaine, mais en évoquant le principe plus général de vie ou de mort. Alors c'est le titre c'est l'intitulé du chapitre 8, de vie et de mort, ou de mort, entre guillemets. Je commence. En cancérologie, plus encore que dans d'autres domaines de la médecine, la notion de vie ou de mort permet aux médecins de prendre bon nombre de décisions autoritaires et justifie, entre guillemets, dans leur esprit, le déni d'écoute des patients, le non-respect de ses désirs, l'absence d'information loyale quand ce n'est pas purement et simplement le mensonge. Alors je rappelle à nos auditeurs qui arrivent et auditrices qui arrivent maintenant, c'est que depuis le début, ce livre, eh bien, c'est effectivement le fait de désigner la, et de disons d'alerter sur la maltraitance médicale, la maltraitance des soignants sur les patients. Je reprends. Mensonges et démissions. En Angleterre, dès les années 50, on décidait, pour des raisons morales, de ne plus mentir aux patients sur leur état de santé. En France, avant l'avènement d'un diagnostic précoce et de traitements efficaces, l'annonce d'un cancer était si redoutée par les patients et par les médecins que ces derniers ne la faisaient pas. Ils préféraient affliger le conjoint ou les enfants de la personne atteinte, ce qui privait celle-ci de leur soutien et de la possibilité de discuter les options thérapeutiques, les perspectives et bien sûr de connaître les pronostics. Sous prétexte de ne pas les désespérer, on enlevait aux malades toute maîtrise de leur vie. Au cours des années 70, des livres comme « Changer la mort » de Léon Schwarzenberg et Pierre Vian sont pontés, rencontrèrent un grand écho public en s'attaquant à cette omerta. Et pourtant, 45 ans plus tard, beaucoup de patients ne reçoivent toujours pas la vérité à laquelle ils ont droit. On continue à cacher aux premiers intéressés des informations vitales, alors même que tout traitement, pour être mis en œuvre, exige qu'on ait recueilli au préalable leur consentement éclairé et par une information complète et loyale. Il existe des cas rares où un patient préfère et déclare ne pas vouloir savoir, mais ils sont l'exception et le médecin n'a pas à présumer que c'est cette attitude que le patient a choisie. Il doit, par principe, informer chaque patient pour pouvoir le traiter de manière appropriée. La question du consentement éclairé du patient soulève souvent les mêmes questions. Peut-on tout expliquer tout de suite à un patient qui a besoin d'un traitement? Ne va-t-on pas l'assommer sous les informations? Dans un premier temps, c'est possible, mais le consentement n'est pas un moment, c'est un processus de décision informé au jour le jour. Le patient étant susceptible de retirer son consentement à tout moment, il est inévitable et nécessaire qu'on lui délivre en permanence les données le concernant et que le médecin lui traduise ce qu'elles signifient de manière intelligible. Le code de déontologie mentionne même qu'il doit s'assurer à tout moment que le patient a bien compris. Le consentement à un traitement, à une procédure, n'est au fond qu'une des nombreuses facettes de la relation de soins. Tout comme il a choisi librement un médecin pilote particulier, le patient capitaine accepte périodiquement de fixer le cap sur les conseils de ce pilote.
Excuse-moi, je pose une question là, par rapport à ce qu'il vient de dire, parce qu'il dit qu'on choisit librement son médecin. Je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui ont un cancer, mais dans les autres domaines, en général, ben, si par exemple tu dois aller à l'hôpital, tu prends le médecin qu'on t'a donné. Enfin, je veux dire, c'est un peu les riches qui peuvent se permettre de choisir par exemple un médecin qui est en libéral et non pas le médecin à l'hôpital. Dès que tu es à l'hôpital, tu n'es pas là, mais j'aimerais mieux celui-ci, tu vois. Mmh. J'en avais parlé par rapport au fait d'être, par exemple, choisir son gynéco, homme ou femme, enfin, le choisir tout court quand t'es enceinte, il n'en est pas question. Donc, c'est la quasi seule expérience. Enfin, même quand j'ai été à l'hôpital un coup pour une infection, il n'a jamais été question que je choisisse librement un médecin. Mmh. Donc, je m'interroge. Je crois pas que dans le domaine du cancer, ça soit différent. Quelqu'un qui, la plupart des gens doivent en être réduits à aller se faire soigner à l'hôpital et non pas chez un médecin libéral. Enfin, il me semble, tu vois. Donc, il y a des bonnes chances, si j'ose dire, qu'ils se retrouvent avec le médecin qu'on leur a fourgué, quoi. Enfin, voilà, hein, c'est peut-être une question, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup que des gens qui sont à la CMU ou quoi, ils aient la possibilité de choisir leur médecin. S'ils doivent aller à l'hôpital, si c'est le principe, tu as le médecin qu'on t'a donné, quoi, c'est tout.
Disons que si à ce moment-là le patient décide de dire je ne veux pas vous comme médecin mais j'en voudrais un autre, c'est la loterie, quoi. C'est-à-dire fois on va lui dire oui, des fois on va lui dire non.
Moi je pense qu'il ne doit pas en être question. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup qu'il en soit question.
Dans l'hôpital, c'est vrai.
Je parle de l'hôpital.
Oui, oui, c'est exceptionnel.
Oui, mais c'est exceptionnel, mais est-ce que c'est si exceptionnel que ça en fonction de la situation économique et sociale? Je m'excuse de voir cet aspect-là, mais
C'est plus facile pour un riche de changer de médecin que.
Je sais même pas si c'est envisageable. Ouais. À mon avis, enfin, j'ai vu comment ça se passait. Moi, j'étais pas très contente d'un gynéco, mais j'avais dû évoquer vaguement. Je pourrais pas en avoir un autre. Non. Vous êtes déjà bien. Enfin, voilà, à cheval donné, on regarde pas la bouche, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Tu devrais déjà être bien content qu'on t'en donne un. Tu vas pas faire des caprices maintenant, enfin voilà quoi.
Un cheval, mais avec une blouse blanche. Ouais. D'accord. Alors, oui. Alors,
on dit... Enfin bon, c'était une question passante.
Ouais, mais on va. Bon, alors là, on choisit le cas de figure où justement le médecin est choisi librement. Mm-hmm. Et donc, le médecin est le pilote et le patient accepte et lui fait confiance. Mais la confiance qu'il lui porte ne peut être ni aveugle, ni absolue, ni définitive. Elle doit être méritée en permanence. Il en va de même pour le consentement. Mais on n'aide pas les patients à prendre des décisions en tamisant les lumières ou en les poussant dans le brouillard. En 1978, je faisais un remplacement d'infirmier dans le service de gastro-entérologie d'un grand hôpital. L'une des patientes, Madame H, était hospitalisée pour une tumeur du foie. Elle avait une quarantaine d'années, deux petits garçons, un mari manifestement aimant et très présent. Elle faisait une jaunisse impressionnante. Les médecins la savaient condamnée car sa tumeur était inopérable et ils l'avaient annoncée de manière assez cruelle à son époux dans le couloir, sur le pas de la porte de sa chambre, juste avant qu'il entre la retrouver. Et tout aussi cruellement, il avait fait croire à Madame H qu'elle avait une maladie parasitaire du foie, une échinococcose alvéolaire. Je trouvais ça particulièrement tordu, car il s'agit d'une maladie aussi mortelle qu'un cancer du foie, mais à l'époque, bien sûr, elle ne pouvait pas aller chercher sur Internet de quoi il s'agissait. Pour couronner le tout, on lui faisait miroiter l'éventualité d'une greffe de foie, ce qui était un autre mensonge, car on n'en faisait pas aux patients atteints de cancer. Naïvement, j'ai demandé à l'interne pourquoi on cachait la vérité à Madame H. Il m'a répondu « Pour ne pas la désespérer, on ne sait jamais... » Elle pourrait faire une bêtise. Comme ça, on lui laisse de l'espoir. Enfin, je pense, tu vois. En tant qu'infirmier, je passais beaucoup plus de temps que lui avec les patients. Ce que je voyais, c'est que M. H. avait le visage défait quand il retrouvait sa femme après avoir parlé au médecin. Ce que je voyais, c'est que Mme H. souffrait d'être coincée dans un lit d'hôpital où on ne lui faisait rien, sinon lui raconter des salades. Ce que je voyais, c'était qu'elle n'était pas stupide, elle savait que ce que signifiaient les chuchotements, les regards qui se détournent et les yeux rougis de son mari. Ce que je voyais, c'était sa joie d'accueillir ses petits garçons et son désespoir quand il devait repartir au bout de 20 minutes. Ce que je l'entendais dire au médecin, qui ne l'écoutait pas, c'est qu'elle voulait rentrer chez elle. Un soir, alors que je passais dans sa chambre, elle m'a pris la main. « Vous croyez vraiment que c'est nécessaire que je reste ici ?» L'hôpital n'est pas la prison, je lui réponds. Vous pouvez sortir quand vous voulez, et vous n'avez besoin de l'autorisation de personne. Le lendemain, elle quittait le service. Le patron du service n'a pas commenté, mais l'interne m'a confié. J'avais peur qu'elle meure ici. J'ai pas fait ce boulot pour soigner les mourants. Mais pourquoi lui mentir alors? Pourquoi ne pas lui dire de rentrer chez elle? J'ai pas appris à le faire. Et j'ai pas envie d'apprendre. Mais je suis content qu'elle soit partie, ça me soulage. Au moins, quand elle en aura besoin, son généraliste sera là pour lui prescrire sa morphine.
Mais il y a aussi une question que je me pose par rapport à tout, enfin, au sujet même. Parce que, j'ai quelqu'un de proche, effectivement, qui a perdu sa mère. Et on avait annoncé à son père et lui, qui était encore ado à l'époque, le médecin dit, je vais vous le dire carrément, les carottes sont cuites. Comme ça, dans ces termes.
Ah oui.
Bon, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des pressions quand si le médecin annonce ça à la famille. Est-ce que d'une façon plus ou moins directe, il ne fait pas pression pour qu'eux-mêmes ne le révèlent pas? Du genre, faut pas lui dire, ça serait, je sais par expérience que ce serait vraiment mauvais pour la personne. Parce que tu dis, s'ils le disent à la famille, on pourrait se dire que la famille, à son tour, se dirait, attendez, je pense qu'elle a quand même le droit de... Enfin, la personne a le droit de savoir. Mais je crois que les médecins doivent faire pression sur la famille pour qu'ils la bouclent, en fait. Enfin, en leur disant, faut pas le dire, je sais par expérience que ça peut être que très nocif pour la personne. Tu crois pas qu'ils font des pressions un peu pour que pour qu'ils ferment leur gueule, quoi? Parce que sinon, ben, au bout du compte, la famille elle-même pourra dire, vous êtes gentil, mais je pense qu'elle a le droit de savoir. Donc, si tu veux, c'est un truc... la pression, elle est directement aussi sur la famille, pour qu'ils, s'il faut leur dire à eux, ben, pour qu'ils le disent pas. Je suppose qu'ils baratinent aussi, de ce point de vue-là. Enfin, voilà, c'est...
Alors, en plus, oui, au début du livre, l'auteur parle de l'aura du médecin, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a aussi sur, d'influence sur les personnes, ne serait-ce que parce qu'il est médecin. L'été précédent, lors d'un voyage aux États-Unis, j'étais allé voir un ami alors âgé d'une cinquantaine d'années, dont D, dans le service où il était hospitalisé pour un cancer de l'estomac. Je m'attendais à le trouver coincé dans un lit et bardé de perfusions. Mais il était tranquillement assis dans un fauteuil et lisait le journal. Il savait tout de sa maladie, même peut-être ce qui l'avait provoqué. Les médecins lui avaient demandé s'il avait servi dans la Navy après la Seconde Guerre. Oui. Avait-il navigué dans le Pacifique? Affirmatif. Pas loin de Bikini? Comment le savez-vous? Eh bien, avait dit le médecin, on voit de plus en plus de patients ayant des cancers et qui servaient dans des vaisseaux naviguant non loin de Bikini pendant les essais nucléaires entre 1947 et 1958. Ils sont en train de poursuivre la Navy grâce à une class action, procédure collective. Si vous désirez vous joindre à eux, on vous fournira tous les éléments médicaux pour la demande d'indemnisation. Don D me racontait tout ça en souriant. Il n'était pas très heureux de souffrir d'un cancer, mais il voyait les choses avec optimisme. Comme je lui disais ma surprise, agréable, de le voir en aussi bonne forme et l'air serein, il m'avait montré l'impressionnante balafre qu'il avait sur l'abdomen. Il m'a répondu en riant « Je ne souffre pas du tout, je suis sous morphine. » En France, à la même époque, la prescription de morphine était encore considérée comme l'équivalent d'un arrêt de mort. On n'en donnait donc pas aux vivants qui souffraient, seulement aux mourants. Protocoles et manipulations. Chaque semaine, je reçois des témoignages de patients à qui on a menti sur leur état, sur la nature de la maladie qui les afflige, sur le pronostic, sur les traitements. Comme la grossesse, le cancer rend vulnérable. L'enjeu est énorme et les patients concernés sont prêts à mettre leurs attentes en sommeil et à accorder toute leur confiance au médecin pour que tout se passe bien. Mais parfois, certains patients ne veulent pas des solutions qu'on leur propose et le médecin, qui anticipe leur refus, cherche à le contourner. 1993. Une femme de 70 ans souffre d'un état pré-leucémique. Le cancérologue à qui on a demandé un avis convoque le fils de cette femme, médecin lui aussi. Le cancérologue. Votre mère a deux options. Ou bien elle va se faire soigner à l'hôpital Z à Paris, qui est spécialisé dans son affection, mais là, ils la traiteront de manière très simple, pas agressive, en lui donnant des médicaments de confort, et il est probable que sa leucémie l'emportera d'ici 6 à 9 mois. Le fils, je vois. Et l'autre option, le cancérologue. Si vous me la confiez, Je l'hospitalise à la clinique Y, où nous testons actuellement des protocoles expérimentaux très prometteurs. Mais je vous préviens tout de suite, à son âge, ça passe ou ça casse. Le fils. Je vois, je ne sais pas pourquoi vous me dites ça à moi, c'est elle la première concernée. Le cancérologue. Mais si je lui explique ça, je sais ce qu'elle va me répondre. Quoi donc? Le cancérologue. Qu'elle veut qu'on la laisse tranquille. Le fils. Donc vous aimeriez que je l'incite à choisir la deuxième solution? Le cancérologue. Bien entendu! Vous êtes médecin, vous aussi, vous comprenez ce qui est en jeu. Le fils. Je comprends très bien, mais vous voyez, en cet instant, je ne suis pas son médecin, je suis son fils, et c'est à elle de prendre la décision. Et il n'est pas question que je fasse pression sur elle. À la suite de cette conversation, le fils n'entend plus parler de ce cancérologue et la mère va se faire soigner comme elle l'a demandé dans un hôpital où on rend ses derniers mois de vie aussi doux que possible. Au point qu'elle les passe chez elle, entourée de ses proches. 2005. Un adolescent de 15 ans, Alexis, est soigné pour une maladie de Hodgkin. Lorsqu'il est en rémission et va bien, le cancérologue qui le suit décide de lui faire subir une autogreffe de moelle. Inquiet à l'idée de que ce nouveau traitement déstabilise sa rémission, les parents demandent un deuxième avis. Un second cancérologue leur déclare que l'autogreffe n'est pas indispensable. Les parents d'Alexis refusent l'autogreffe. Le premier cancérologue saisit alors le parquet. Après une expertise rapide, le juge des enfants décide de retirer Alexis à ses parents et le transfère au CHU d'Angers, où Alexis refuse les soins. Les parents proposent de le faire hospitaliser à l'hôpital Avicenne dans le service d'une autre cancérologue, le docteur Nicole Delépine, connu pour sa « dissidence » entre guillemets par rapport au protocole cancérologique orthodoxe en cours. Après deux audiences, la cour d'appel infirme le jugement de première instance et rend Alexis à ses parents, à charge pour eux de le faire soigner là où ils l'ont décidé.
C'est-à-dire que, excuse-moi, j'ai... Donc, quand c'est un adolescent, ils estiment que ceux qui doivent décider, évidemment, c'est les parents, pas l'adolescent. C'est où j'ai mal compris, là, ce que tu viens de raconter.
Là, c'est les parents d'Alexis qui avaient refusé l'autogreffe. Hein, donc,
je pense que, de toute façon, juridiquement, c'est les parents qui décident si... Tu sais, on a tous vu les histoires de genre de témoins de Jéhovah qui veulent pas... Et puis même, on sait bien que t'as dû, ayant un enfant, toi aussi, que tu dois signer un accord pour même une opération. Donc, quelque part, c'est pas pour faire de l'anti-agisme, mais enfin, malgré tout, est-ce qu'un adolescent est pas en mesure d'avoir quand même un avis? Enfin, je dis pas quand t'as un enfant qui a 5 ans ou 6 ans, mais enfin, un ado, pourquoi... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que Martin Winkler lui-même ne mentionne pas cette... Ce dilemme, enfin ce problème, que ce seraient des parents qui décideraient pour leur ado, ce qui n'est pas pareil, encore une fois, qu'un enfant en bas âge. Enfin, je veux dire, on ne va pas demander à un gosse de 5 ans s'il est OK pour se faire un protocole, une greffe de moelle osseuse, mais un ado, à mon avis, il est quand même en capacité de comprendre, de comprendre si on lui explique. Alors... Et lui, Martin Winkler, il ne parle même pas de ce problème. Même pour dire, d'accord, c'est les parents qui décident, mais en même temps, un ado n'est pas en mesure de décider, enfin de comprendre. Il n'en parle pas du tout, comme si pour lui, premier concerné, dans le cas d'un ado, c'était les parents. Enfin, je note ça, c'est tout.
Alors oui, les parents d'Alexis refusent l'autogreffe avant que le premier cancérologue saisisse le parquet.
Et puis à la fin, ils disent, ou eux l'ont décidé, il sera soigné, ou les parents ont décidé. Il n'y a pas marqué où l'ado a décidé.
Alors.
J'ai mal compris. Hein,
Non. Alors, d'abord, après la plainte du médecin, le juge des enfants décide de retirer Alexis à ses parents et le transfère au CHU d'Angers, où Alexis refuse les soins.
C'est lui qui refuse.
Et du coup, il y a quand même les deux. Il y a du coup les parents, un coup c'est lui aussi. Mais effectivement,
un problème à part entière, je trouve.
Je rebondis sur ce que tu dis, du fait que même par exemple en psychiatrie, il y a plein de choses, plein de décisions qui sont prises pour le patient, mais bien souvent la personne concernée, elle a pas du tout voix au chapitre et que.
Ouais. Si tu veux, on pourrait se dire à partir de quel âge tu estimes qu'on peut avoir un consentement ou un non-consentement éclairé. Un ado, c'est pas comme un enfant en bas âge. J'estime que tu dois pouvoir comprendre de quoi il est question, quels sont les enjeux, et le principal concerné, c'est l'ado, quoi. Enfin, voilà.
Oui. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord pour faire de l'anti-agisme ici.
Voilà.
Ces deux histoires, la première est un témoignage individuel, la seconde a été largement commentée dans les médias, me semble symptomatique d'une attitude très fréquente dans le monde de la cancérologie, à savoir que, pour certains médecins, la vie des patients, d'un adolescent ou de ses parents ne mérite pas une discussion pacifique, mais des manœuvres, voire le recours à une mesure particulièrement brutale. Aucun des deux patients n'était dans l'incapacité de donner son avis. Au contraire, dans le cas de la première, son désir était qu'on la laisse finir sa vie paisiblement. C'était parfaitement son droit, et c'est ce qui s'est passé. Dans le cas d'Alexis, le désir exprimé était de ne pas subir le traitement sans nécessité absolue. C'était une requête raisonnable, elle aurait dû être entendue. Était-ce impossible ? Bien sûr que non. Si danger il y avait pour Alexis, il n'était pas immédiat, et son avis comptait, manifestement, pour d'autres que ce cancérologue, puisque dans le service où il avait été transféré à Angers, on respectait son refus d'être soigné.
Ah, donc là, on revient quand même voilà. Au consentement de l'ado lui-même.
Quelques semaines après la décision de la Cour d'appel, j'ai participé à une émission sur France Culture, donc écrit Martin Winkler, consacrée à cette affaire. L'avocat de la famille, un membre d'une association de patients et le docteur Delépine étaient présents. Les parents d'Alexis et le cancérologue avaient été enregistrés. Les parents étaient manifestement des gens paisibles qui n'avaient pas compris l'insistance inébranlable du cancérologue. Car le problème ne résidait pas dans la manière dont il exerçait son métier, mais dans sa volonté d'imposer son point de vue, son refus manifeste d'écouter ce qu'Alexis et les siens avaient à dire, son incapacité à accepter qu'il puisse vouloir un deuxième avis ou refuser un traitement, et enfin son incroyable décision de dénoncer cette famille à la justice comme si le droit de refuser un traitement, alors qu'il est inscrit dans la loi, avait été un crime.
C'est dingue qu'on ait reçu sa plainte, de toute façon. Enfin, je veux dire que si tu fais un truc fantaisiste, normalement, qui est illégal, quoi, si je comprends bien, on aura dû les envoyer balader, quoi. Ouais, peut-être, je sais
pas. Ben oui, mais bon, voilà, tous les juristes ne connaissent pas toutes les lois. Donc, dans un pays où beaucoup
Où les médecins sont au-dessus des lois, c'est possible aussi.
Donc, dans ce pays où beaucoup de médecins disent craindre que leurs patients ne fassent pas des procès, il est stupéfiant de voir un praticien recourir à la justice pour imposer un traitement sans caractère d'urgence ni nécessité. Voilà, c'est la conclusion. Alors, on peut parler. Il est 10h, on peut faire une pause peut-être.
Ah oui, oui. Donc tu m'as... C'est pour me faire plaisir que tu as pris du courge, si j'ai bien suivi.
Oui, puis à moi aussi.
Ah oui, quand même. Ouais, donc je rappelle par rapport à courge, donc c'est le groupe, si on peut dire, parce que souvent il est tout seul, mais enfin des fois il invite des copains. C'est le groupe de l'anarcho-punk, le dessinateur de BD anarcho-punk Matt Conture, dont on peut trouver les BD autobiographiques la plupart du temps à la librairie Publico, en particulier Sclérose en plaques, où il raconte sa sclérose en plaques. Et puis, en effet, comment ça se passe avec la médecine aussi. Donc voilà, Matt Conture, courge.
Thank you.
Radio Liberté, et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et je retourne dans le studio.
Ah. On compte, c'est un autre chapitre que tu vas commencer ou tu continues encore sur le même thème?
Alors je vais lire une partie encore de celui-là, mm-hmm, et passer au suivant. Donc c'est Martin Winkler, Les Brutes en blanc. Et on parle, là on est un peu dans le domaine de la cancérologie, mais aussi du déni de, disons, de ce que les patients ont un entendement aussi quand même. Alors, le 7 juin 2016, le blog de la médecine générale, alors ça c'est le nom du blog, le nom du blog c'est docteurdu16.blogspot.ca. Alors c'était un HTTP, donc je crois que ça ne doit plus exister. Relatait une histoire de cancérologie encore plus accablante. Un cancérologue appelle l'auteur... médecin généraliste qui écrit sous le pseudonyme de Docteur Ducèze. Et il lui demande de convaincre un patient d'accepter une chimiothérapie. Lorsque le médecin se rend chez celui-ci, la famille lui rapporte les faits suivants. Le cancérologue a déclaré au patient qu'il avait 99% de chances de mourir et que s'il suivait la chimiothérapie proposée, expérimentale, il pouvait vivre 3 à 9 mois de plus. Sans attendre de savoir s'il acceptait, on a posé au patient, sans lui demander son avis, une chambre implantable, réservoir placé sous la peau pour administrer les anticancéreux. Le patient a cependant refusé la chimio. Le cancérologue a déclaré « Puisque vous refusez, pas la peine que je vous revoie ». Dans la lettre qu'il a reçue plus tard du cancérologue, le généraliste a pu lire « Je reste à sa disposition pour le revoir quand il le souhaitera, sachant que dans la mesure où il refuse toute prise en charge carcinologique spécifique, mon aide ne peut être que limitée. » Comme le dit très bien Docteur Ducèze, cet oncologue est un oncologue, c'est-à-dire qu'il traite des cancers, pas des patients qui souffrent d'un cancer. Est-il une exception ou bien s'agit-il d'un comportement courant? On peut se le demander quand on sait que l'oncologue en question proposait d'enrôler le patient dans un protocole promu par l'Institut Curie, l'un des centres leaders de la cancérologie en France. Je vais un peu plus loin. En 2002-2003, lorsque j'assurais une chronique scientifique quotidienne sur France Inter, il m'est arrivé plusieurs fois de parler de médecine. Lors de ma seconde intervention, j'ai évoqué une affaire qui venait de secouer l'opinion. Une patiente, témoin de Jéhovah, avait refusé les transfusions que désiraient lui imposer les médecins de la maternité où elle venait d'accoucher. Elle avait fait appel au tribunal qui avait enjoint aux médecins de respecter la loi et de suspendre les transfusions en question. J'avais terminé ma chronique en rappelant la loi Kouchner, qui datait de l'année précédente, et en soulignant que les médecins ne sont pas au-dessus des lois et que c'est très bien. Dans les heures qui ont suivi, le Standard de France Inter a reçu un nombre inhabituellement élevé de coups de téléphone. Certains, en particulier des médecins, me reprochaient de défendre les droits des patients à refuser un traitement en vociférant de manière assez grotesque. « Alors à présent, les gens vont se laisser mourir puisqu'ils n'accepteront plus qu'on les soigne !» D'autres, aussi nombreux, si ce n'est plus, avaient déclaré « Enfin, un médecin dit clairement qu'on a le droit de décider ce qu'on fait de notre vie !» Je m'étais contenté de rappeler un droit inscrit dans la loi, mais entre le paternalisme des praticiens et les aspirations légitimes des citoyens, le fossé, on le voit, était béant et profond. 14 ans plus tard, il l'est toujours. Tentons de comprendre pourquoi. Et là, on passe à la troisième partie de notre livre, La fabrique des brutes en blanc. En France comme ailleurs, nombreux sont les praticiens intègres et bienveillants, animés d'idées généreuses et dévoués aux patients. On aimerait qu'ils soient les plus nombreux et surtout les plus influents, car alors ils pourraient servir de modèle à tous ceux qui se destinent à ce métier. La réalité est tout autre. Pourquoi tant de médecins français sont-ils si peu psychologues, entendons souvent demander. C'est tout simple, parce qu'ils sont médecins et pas psychologues. Car dans les facultés de médecine françaises...
Et parce que moi j'aurais une autre réponse, c'est parce que il n'y a pas tant que ça en général de gens qui sont bienveillants. Non mais c'est vrai, je suis un peu cynique, mais c'est vrai. Donc ils sont ni meilleurs ni pires, mais ils sont en position de pouvoir. Et le pouvoir est maudit, hein, comme disait Louis Michel. Les psychologues que j'ai pu, tu connais mon avis sur les psychologues, sont pas toujours très psychologues non plus. Oui. Donc le côté si leur métier était psychologue, il serait autrement. C'est qu'on n'a pas dû, on ne doit pas vivre sur la même planète. Hein. Voilà, c'est une parenthèse.
Dans les facultés de médecine française, on n'enseigne pas la compréhension et le soin des personnes. On y enseigne la pathologie, le diagnostic et la thérapeutique. On y forme les futurs membres d'une classe privilégiée, pour la plupart impatients de faire partie de l'élite sociale. Ils seront docteurs, au sens le plus boursouflé du terme, des gens qui savent, conscients de leur supériorité et qui n'hésiteront pas à le dire et à le montrer. Leur formation vise avant tout à acquérir les postures avalisant l'autorité des médecins sur tous les autres citoyens, non à apprendre des gestes destinés à soulager ceux qui souffrent. Les soins, c'est l'affaire de la profession infirmière, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des psychologues. L'affaire des médecins, c'est le savoir et les pouvoirs qui en découlent. Qu'on ne s'étonne donc pas de rencontrer des médecins insensibles, hautains, insultants, brutaux, méprisants ou franchement maltraitants. Ils se comportent comme on leur a appris à le faire, ou parce qu'on ne leur a pas appris à se comporter autrement. Et ils trouvent ça tout à fait normal, car ils ont pour aspiration de faire partie d'une caste, non de servir le public.
Juste par rapport aussi au fait de citer même les infirmières, je pense qu'on a tous, toute personne qui s'est retrouvée à l'hôpital a vu qu'elles sont tout à fait capables de malveillance, c'est vrai. Et le truc, c'est effectivement la situation de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir d'une infirmière, il existe déjà. Enfin, c'est vrai, hein, quand t'es à l'hôpital, j'en ai même vu, mon fils avait 5 ans, il se fait opérer des yeux et les infirmières l'insultent parce qu'il pleure, tu vois, je te jure que c'est vrai. Et bah oui, et le truc c'est que évidemment, plus t'as de pouvoir et puis plus ta malveillance peut être nuisible, si tu veux. Et donc c'est ce qui se passe. Ils sont pas forcément, enfin moi c'est mon avis, hein, mais je pense qu'ils sont pas forcément plus malveillants que n'importe qui, mais qu'ils ont la possibilité de nuire qui est supérieur. C'est, il y a pas de mystère. Tu es médecin, t'es vraiment en position de force, quoi. Et beaucoup, enfin, plus t'es en position de force, et puis plus les abus peuvent avoir des conséquences graves, quoi. Enfin, oui, moi c'est mon avis. Je pense pas qu'ils sont ni pires ni mieux que les autres, mais ils ont plus de pouvoir, c'est vrai.
Quelle que soit la profession médicale, qu'elle soit haute ou même au niveau de l'infirmier ou du psychologue ou je sais pas, c'est la question du pouvoir médical en fait.
C'est la question du pouvoir tout court. Oui. Si tu veux, pour moi c'est la question du pouvoir tout court. Les matons vont abuser de leur pouvoir évidemment, oui, les flics aussi, ton chef de service, enfin les gens qui sont dans une position de pouvoir. Et en effet, le psychologue qui va décider que finalement tu sors pas, alors que, enfin je sais pas, c'est un truc. Ça veut pas dire que tous les, enfin je pense déjà que quelqu'un qui, un médecin ne fait pas, enfin contrairement à un maton, pour quand même tempérer ce que je dis, un médecin peut faire ce métier pour des raisons qui sont bienveillantes. Enfin je veux dire, c'est possible, c'est pas, oui, un métier départ, qui est nuisible, loin de là au départ. Donc j'exagère de comparer avec un maton, parce que tu t'es pas maton si t'as pas un petit peu de t'es pas un peu autoritaire sur les bords.
On a fait cette comparaison concernant la psychiatrie, quoi.
Oui, mais mais les psychiatres, c'est pas comme les médecins, c'est ce que j'en pense. C'est pas une science, de la psychiatrie, c'est pas une science. Tu peux leur demander en quoi leurs études leur ont servi à quoi que ce soit. Si t'as une capacité d'écoute, t'as pas besoin de faire des études pour écouter les gens. Et jamais j'ai réussi à faire cracher à un psy en quoi les bibliothèques qu'il a avalées et les heures et les heures d'études ont pu leur servir à avoir plus d'écoute envers leurs patients, alors que c'est la seule chose qu'ils sont foutus de faire, en réalité. Mais la psychiatrie, c'est différent parce que c'est des médicaments, et les médicaments, ça relève de la médecine, si tu veux. Il n'y a pas de mystère, c'est pas un truc subjectif. Mais les médecins, c'est véritablement, je fais une différence parce que c'est véritablement une science. Il n'y a pas de mystère, c'est pas le premier venu. Le premier venu peut écouter avec bienveillance, le premier venu peut pas t'opérer de l'appendicite ou ne peut pas te faire une chimio ou je sais pas. Enfin, tu vois, je vais vous faire un diagnostic à partir d'analyse. Il n'y a pas de mystère, c'est une science. Mais en revanche, c'est des gens qui se retrouvent réellement dans une position de pouvoir extrême. Et si là c'est la loterie. Si tu tombes sur un médecin qui est pas du genre autoritaire, ben tant mieux, ou même sadique, tant mieux. Mais et en même temps, on peut pas se passer d'eux. Donc c'est un cas très particulier, je trouve, si tu veux, par rapport à l'idée des abus de pouvoir. Voilà.
Bon, et puis une des différences entre la psychiatrie et la médecine somatique. Pour résumer, c'est aussi que dans la médecine somatique, il y a cette possibilité, comme le rappelle l'auteur, de refuser un traitement, d'être libre de un peu quand même la loi garantit.
Oui, mais juste.
Alors qu'en psychiatrie, le consentement n'est pas du tout recherché.
C'est vrai. Enfin, c'est vrai la plupart du temps. Il y a des gens qui vont volontairement voir un psy, par exemple.
Oui,
mais même un psychiatre. Mais en même temps, c'est quand même somatique. Je veux dire, la psychiatrie, contrairement à tout ce qui est psychanalyse, psychologie et tout, ça repose sur le somatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. On te donne un calmant. On envoie un calmant à un rhinocéros. Il va se calmer. C'est pas psychosomatique, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre réellement du somatique. C'est-à-dire qu'on va te donner un calmant, on va te donner un truc pour t'endormir, on va te donner un excitant, on va te donner un truc qui te change en légumes, enfin tu vois.
Ça va même plus loin, parce que maintenant on sait que, bon voilà, on considère la maladie psychiatrique par l'intermédiaire de cet organe appelé cerveau, et que donc c'est aussi une maladie organique, etc., avec les recherches récentes sur le cerveau. On commence à aller vers de la somatologie, en quelque sorte, avec les maladies psychiatriques.
Pour malgré tout continuer sur ce, parce que je pense que c'est vraiment une question qui est fondamentale, si tu veux. C'est que la psychiatrie est dangereuse parce que, ben, par exemple, on en a déjà parlé dans l'émission, on te colle un enfant sous... quand j'étais enfant, on m'avait mis sous un médicament parce que ma mère estimait que j'étais un peu trop rock'n'roll, quoi, tu vois. Et je fais pas te dire le contraire, ça m'a changé en courge, hein, je veux dire, vraiment. Ah bah, parce que c'est des drogues. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Tu prends de la coke, tu vas être énervé. Tu fumes un pétard. Enfin, c'est somatique. Ouais. Et le truc après que tu peux te poser comme question, c'est que de toute manière, ce truc-là, en effet, a des effets. Enfin, cette façon de voir les choses a des effets secondaires. Mais il ne faut pas croire que l'alternative, c'est qu'un psy t'écoute. Moi, je n'avais pas besoin qu'un psy m'écoute. Enfin, je veux dire, pas besoin d'un psy du tout. Tu comprends ce que je veux dire.
Il y a beaucoup de différence entre la médecine somatique et la psychiatrie, puisqu'elles sont toutes les deux somatiques.
C'est ce que je voulais dire.
Mais simplement qu'en psychiatrie, la recherche du, il n'y a pas de recherche du consentement. Alors
ça dépend des fois. Les gens peuvent, encore une fois, peuvent y aller volontairement.
Oui, mais il peut leur arriver d'être malgré tout enfermés contre leur gré.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un pouvoir, ouais, d'enfermement qui a priori les médecins. Je suis pas sûre qu'on te. Est-ce que ça peut arriver qu'on te colle de force à l'hôpital si t'as une pathologie alors que tu voulais pas? Je crois pas. Hein.
Voilà.
Non, c'est vrai. Donc, t'as au moins une possibilité, en théorie, de refuser, et qu'effectivement, il y a un pouvoir pour les psys qui... Enfin, qui est possible, c'est pas, ils ont pas tous, ils font pas tous ça, mais qui est, oui, qui est spécial. On estime que tu peux être dangereux, n'est-ce pas, pour toi-même, pour les autres, etc.
Donc, comment sont formés les professionnels? Oui, on leur apprend à être supérieur et à ce qu'ils trouvent ça normal, car ils ont pour aspiration de faire partie d'une caste, non de servir le public. Cette situation n'est pas nouvelle, elle a ses racines historiques qui sont communes à toutes les sociétés. Ce qui fait aujourd'hui toute la différence entre la médecine française et celle de l'Angleterre ou des Pays-Bas, c'est l'histoire de leurs églises respectives. Voilà. Alors, est-ce que je commence je peux aller faire encore un petit peu avancer pour introduire donc cette troisième partie qu'on est en train d'aborder maintenant, la fabrique des brutes en blanc. Jeunesse d'une profession. Donc toujours Martin Winkler, les brutes en blanc. De tout temps, dans tous les groupes humains, certains individus ont eu pour fonction principale de soigner les autres. Chaman, homme ou femme médecine, sorcier, guérisseur, rebouteux, toucheux, ces soignants et soignantes communautaires étaient dotés d'un savoir, d'un savoir-faire ou d'aptitudes spéciales, respectées et ou redoutées. Pour identifier la cause d'un mal, faute d'explication scientifique, le chaman invoquait l'au-delà, ce qui ne l'empêchait pas de proposer des traitements parfois efficaces, transmis par ses prédécesseurs. Ainsi, on savait, il y a très longtemps, que la crise de paludisme était calmée par l'écorce de quina-quina et la fièvre, de nombreuses infections... par les décoctions de feuilles de saule. La digitale et le pavot étaient récoltés et cultivés bien avant la naissance de l'industrie du médicament. À mesure qu'ils ont pu étudier les maladies de manière méthodique, les soignants se sont affranchis des explications surnaturelles et ont élaboré des répertoires, des hypothèses, des théories, des systèmes. Peu à peu, le savoir scientifique s'est affranchi du sacré. En Occident, à l'époque d'Hippocrate, les praticiens ne sont plus prêtres. Au Moyen-Âge, dans le monde méditerranéen, la médecine arabe et la médecine juive accumulent des observations scientifiques plus importantes qu'Hippocrate et les médecins de l'Antiquité. Plus au nord, en France en particulier, le catholicisme prend le contrôle de la médecine. Pendant des siècles, l'Église s'opposera systématiquement à la recherche médicale, par exemple en interdisant les dissections et en contraignant les anatomistes à examiner les suppliciés qu'on vient de soumettre à la torture, ce qui ralentira l'acquisition des connaissances en pathologie, mais aussi en thérapeutique. Au fil des siècles, les activités soignantes se professionnalisent, tandis que les médecins posent des diagnostics et prescrivent saignées, régimes ou traitements plus ou moins éprouvés, les chirurgiens réparent et opèrent. Au XIIe siècle, en France, Jean Pitard, premier chirurgien des rois Saint-Louis, Philippe le Hardi et Philippe le Bel, sépare et définit les compétences respectives des chirurgiens et des barbiers. Les débuts de la formation médicale datent de la même époque. La plus ancienne école de médecine d'Europe fut créée à Salerne, en Campanie, Italie méridionale, au Xe siècle. La plus ancienne faculté de médecine française à Montpellier à la fin du XIIe siècle. Mais même s'ils acquièrent un pouvoir profane, les médecins restent intimement liés à la religion. Jusqu'à l'avènement de l'imprimerie, c'est dans les monastères qu'on transcrit le savoir médical ou qu'on le traduit du grec, de l'hébreu, de l'arabe. C'est là aussi qu'on contrôle le contenu des textes en supprimant ce qui est indésirable ou en adoptant les normes qui renforcent les conceptions agréées par l'Église. En France, jusqu'à la Renaissance, les praticiens formés par les universités sont presque tous des ecclésiastiques. Au XVIe siècle, pour asseoir l'autorité des médecins, l'Église entreprend de disqualifier systématiquement les sages-femmes, femmes médecines et guérisseuses, qui soignent avec des plantes et des remèdes naturels en les accusant de sorcellerie et en les brûlant à l'occasion. Par la suite, et jusqu'à la Révolution, l'Église contrôle entièrement la profession médicale et, du même coup, permet à celle-ci de dominer toutes les autres professions soignantes. Et seuls les hommes ont le droit d'être médecins. Le schisme déterminant. À l'époque où en France le huguenot Henri IV se convertissait au catholicisme pour accéder au trône, Élisabeth d'Angleterre solidifiait l'Église anglicane, religion d'État indépendante de Rome. Elle permettait aussi, ainsi, sans le savoir, l'éclosion d'un regard différent sur le monde. Libéré du pape et du Vatican, le peuple britannique se retrouve seul face à sa conscience et c'est d'abord à la société des hommes qu'il a des comptes à rendre. Au XVIIe siècle, en France, se révolter contre le roi, c'est encore se révolter contre Dieu. À la même époque, en Angleterre, le roi n'est plus monarque de droit divin, c'est un homme qui ne vaut pas plus que ses vassaux et ceux-ci le comprennent vite. En 1689, 100 ans avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française, le Bill of Rights instaure en Angleterre un parlement au sein duquel la liberté d'expression est totale et dont le roi ne peut contrôler ni les élections ni les débats. L'histoire des sciences voit dans ce schisme majeur l'origine des percées intellectuelles considérables qu'opèrent par la suite les écrivains, les savants et les philosophes d'Europe du Nord, d'Outre-Manche, puis d'Outre-Atlantique. Les Pays-Bas, havre du protestantisme, n'ont pas eu grand mal à produire leurs propres savants. Au XVIIe siècle, l'école d'anatomie de Leiden est l'une des plus réputées d'Europe. Alors que l'étude du corps humain est encore interdite dans les pays catholiques, on considère là-bas qu'étudier le corps, c'est comprendre l'œuvre de Dieu. Quand le Britannique William Harvey, en 1628, suggère que le cœur fonctionne comme une pompe et fait circuler le sang dans tout l'organisme, les savants néerlandais reprennent ces recherches, tandis que les Français Jean Riolan et Guy Patin, contemporains de Molière, les rejettent. En Angleterre, Newton rédige la loi de la gravitation universelle en 1687. Jenner met au point la vaccination contre la variole en 1796. John Snow démontre la transmission du choléra par l'eau en 1854. Darwin publie de l'origine des espèces en 1859. Ce n'est pas faute de savants que la France s'est fait distancer par les anglo-saxons à la tête de la révolution scientifique, industrielle et médicale, mais parce que ces derniers ont pu, à partir du schisme de l'Église anglicane, se sentir libres de penser sans risquer d'offenser Dieu à tout bout de champ, puis, au fil des siècles, d'exprimer et d'échanger opinions et idées sans être persécutés par le pouvoir en place ou les institutions. Et si la méthode scientifique se développe plus librement en Angleterre qu'en France, c'est pour une raison qui tient à la manière dont on transmet le savoir dans chacun des deux pays. En France, la parole du maître est sacrée. La vérité découle de son autorité, non de preuves expérimentales. Et, de même que la parole du pape ou de ses cardinaux, elle se suffit à elle-même. En Angleterre, la parole du maître véhicule l'état des connaissances à un moment donné. L'élève, l'étudiant, le chercheur sont encouragés à poser leurs propres questions et à chercher les réponses à travers leurs propres expériences. Le savoir n'est pas fixé une fois pour toutes, il progresse par l'examen, la critique, la remise en cause, les essais, erreurs et intuitions nouvelles. Les idées donnent lieu à débat et chacun a le droit d'être entendu. Ce n'est pas une simple coquetterie, c'est une éthique. Alors après, on parle d'éthique. Et ben, ce sera pour la prochaine fois.
Oui, parce que c'est un vaste sujet quand même.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ben donc...
Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui.
Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas donc de passer à Publico dimanche.
Voilà.
Pour
pouvoir discuter sur le sujet des idées reçues sur la féminité.
Au revoir. Et maintenant, on vous propose d'écouter l'émission Un rayon de soleil, animée par Fabrice.
Chante pas ce soir les costauds de la lune, gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Ou sois le mousse blond qui veille à la grand'une, il descend vers le soir pour chanter sur le pont, parmi les matelots à genoux et nu-tête, l'Ave Maristella. Chaque marin tient prête sa verge qui bondit dans sa main de fripon. Et c'est pourtant manché. Aux mousses d'aventure, qu'ils bandent sous leurs frocs les matelots musclés. Mon amour, voleras-tu les clés?
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tes yeux brillent comme du diable. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître ni publicité. Vous écoutez l'émission Un rayon de soleil. Comme chaque année, la première émission de l'année est consacrée à un hommage, l'hommage des caricaturistes de Charlie Hebdo, mort au combat, mort parce qu'il voulait simplement la liberté de pouvoir dessiner des dessins, des caricatures. Et les religieux n'ont pas apprécié, les extrêmes religieux n'ont pas apprécié ce genre de dessin. Et du coup, il y a des intégristes qui, le 7 janvier 2015, ont fait un massacre dans les locaux de Charlie Hebdo. Voilà, donc un hommage à cette presse et à tous ces gens qui défendent certaines valeurs de la démocratie, certaines valeurs de la République et certaines valeurs de l'anarchisme, parce que justement, comme on est sans Dieu ni maître, on ne supporte pas de